assez amusant sur ce point-là. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venu. Je prends toujours grand plaisir à rencontrer les lecteurs réguliers du blog. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était mi-novembre. Depuis, il y a eu quand même beaucoup d'événements. Évidemment, la Grèce qui a continué malheureusement à sombrer et qui finalement a fait clairement défaut la semaine dernière, puisque même si la participation du secteur privé, donc en tout cas les investisseurs qui étaient prêts à perdre une grosse partie de leur argent, comme souvent dans un défaut, d'ailleurs, le défaut est rarement à 100%, il est souvent à 2/3, 75%, comme a fait la Grèce. Donc les investisseurs ont dit qu'ils étaient d'accord et volontaires pour cette perte-là, malgré tout, comme une partie non négligeable à refuser, et donc se sont vus appliquer la décote, donc ce qui est considéré comme un défaut et qui entraînera le déclenchement des fameux CDS dont on a beaucoup parlé. Mais on peut quand même estimer que sur ce point-là, on devrait être relativement tranquille du côté de la Grèce cette année, parce que finalement, on a remplacé les investisseurs privés qui avaient la dette grecque par, au final, les investisseurs publics. Non, mais surtout en avant que les investisseurs privés ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais au final, l'Europe, donc tous les pays, ont reprêté de l'argent à la Grèce. Le premier plan en 2010, c'était un plan de 110 milliards, donc la Grèce doit 110 milliards. Le deuxième est 230 de plus, donc ils en sont à 240, plus une cinquantaine qui doivent aussi à la Banque Centrale Européenne. Donc on voit qu'on a maintenant pas loin de 300 milliards qui sont dus par la Grèce aux pays européens. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Évidemment, l'avantage, c'est qu'il n'y a évidemment plus de pression des marchés, qu'on leur a fait des prêts souvent à 30 ans, en disant vous nous remboursez quand vous pourrez, à des taux d'intérêt un peu plus faibles, donc ce qui les aidera un peu. En fait, il est assez risible de voir que l'objectif est quand même d'être à 120% du PIB en 2020. Alors, on disait, ouais, ce sera 117, regardez. Ce qui, déjà, en termes d'objectif, est juste ridicule, parce que déjà, le PIB de la Grèce, fin 2012, on n'a aucune idée de ce qui va être. Donc, évidemment, le ratio dette sur PIB en 2020, c'est comme une vaste blague. Mais surtout, même 120% du PIB en dette, quand vous prenez un taux de 4 ou 5% d'intérêt là-dessus, vous voyez que c'est des montants qui sont surréalistes, ne serait-ce qu'en intérêt. Donc même arriver à 120% est loin d'être une situation... c'est plus confortable que quand on est à 170, certes, mais c'est loin d'être une situation simple et qui ne pose pas de problème. Le souci, c'est qu'on se retrouve à voir la Grèce qui doit beaucoup d'argent à des États maintenant, à nous tous et à la Banque centrale. Habituellement, les États se financent auprès d'investisseurs privés, de banques. Là, on rentre dans une phase où les sommes sont dues à des États. Évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas rembourser les États, ce qui déclenche quelques, à mon avis, problèmes géopolitiques. Peut-être mineurs, peut-être majeurs. On n'en sait rien. Il se passe quoi si le prochain gouvernement grec, si les élections qu'on leur a promises en avril sont tenues, change et dit bon, désolé. On est juste en train de mourir, là, donc ça peut être possible de vous rembourser. Comment va réagir le gouvernement allemand, derrière? Comment vont réagir le gouvernement français? Comment vont réagir les prêteurs des gouvernements français et des gouvernements allemands? Donc on voit qu'on augmente les risques sur ce sujet grec. Donc évidemment, les prochaines élections vont être assez intéressantes, puisque, suivant les sondages, les deux partis qui ont signé tous les accords assez délirants de méga-austérité... absolument pas crédité de la majorité à l'Assemblée. Au contraire, il y a une extrême gauche maintenant qui est extrêmement forte là-bas, une extrême droite qui très loin des niveaux français quand même, mais qui est vraiment non négligeable. Donc quelques incertitudes au niveau de la Grèce, mais somme toute, et même si on en parle depuis mai 2010 maintenant, faire deux ans, on parle que d'un pays qui a 360 milliards d'euros de dette. Ce qui est une dette extrêmement faible face aux 2000 milliards allemands, aux 2000 francs, enfin aux 1800 français, aux 1900 italiens, 1200 espagnols. Enfin, on voit qu'en termes de montant, somme toute, l'affaire grecque est une affaire un peu ridicule en termes d'enjeux et de risques. Dans le petit exposé des ministres, il était intéressant de voir, à un moment donné, ils ont été assez franc, en disant on espère que maintenant on a rassuré les marchés. Le Chao Bleu a parlé d'un point important qui était la confiance des marchés, en disant nous on fait tout ça pour redonner la confiance aux investisseurs, parce que quand on nous prête de l'argent, il faut évidemment que l'investisseur et assez de confiance pour penser qu'on va le rembourser. Et il racontait un peu en disant, voilà, on espère surtout ne jamais revivre ce qui s'est passé en août, quand on se téléphonait tous 4-5 fois par jour parce que les investisseurs ne voulaient plus nous prêter d'argent. Alors qu'en août, il n'y avait pas non plus une panique. On commençait à avoir une tension certes forte, mais on n'était pas non plus sur des fuites majeures devant ces pays-là. En tout cas, c'était intéressant parce qu'ils ont mis en avant le risque majeur qui est comment on finance des déficits aussi lourds. Évidemment, la logique consiste à dire, bon, ben maintenant, il faut revenir à l'équilibre. La question est, est-ce qu'on peut encore revenir à l'équilibre ? Ce qui est loin d'être assuré. La récession majeure a été en 2009. Chez nous, avec 150 milliards d'euros de déficit. En 2010, ça allait un peu mieux, il n'y a plus de récession, il y a eu encore 150 milliards d'euros de déficit. En 2010, la croissance était de quoi ? 1,5 à 1,6. Il y a eu 100 milliards de déficit. On arrive à la quatrième année après la récession, on nous dit que la croissance, ça ne va pas aller fort cette année, et que sur des bases encore optimistes, on passe en déficit de l'État de 80 milliards, plus 10 la Sécu, donc on a 90 milliards. C'est bien gentil, mais si 4-5 ans après une récession, on est toujours en train de faire des déficits gargantuesques, et quand la prochaine récession arrive, autrement dit dans pas longtemps, on fait comment, quoi ? Parce que si on passe à être notre temps être soit en énorme déficit, soit petit à petit, et quand vraiment ça va mieux, on revient juste à l'équilibre, ça veut dire que la dette, elle augmente tout le temps. Qu'on n'arrive jamais à taper un excédent pour au moins rembourser un peu la dette les bonnes années. Donc ça va être l'enjeu des prochaines années, voire même tout simplement de 2012, quand on voit que l'Espagne a pas mal de difficultés. Et je ne sais pas si vous avez lu, enfin j'avais trouvé assez amusant que le Premier ministre espagnol signe un traité européen le matin en disant que, bien sûr, on va respecter les engagements, hein, faut pas rigoler. Et puis dans la conférence de presse après le Conseil, il explique qu'il ne va pas respecter ses engagements parce que vraiment... Ce qui est vrai, l'Espagne a fait comme des efforts importants, mais ils ne peuvent pas tenir leurs engagements de déficit, le pays étant quand même en train d'avoir des difficultés assez peu imaginables. Hein. C'est 50% des jeunes au chômage, pas loin de 25% de chômage officiel, donc quand vous rajoutez les précaires, hein, tout est quanti, vous êtes là, pas loin de la moitié de la population qui est en galère sévère, dans un contexte de bulle immobilière qui n'a pas encore... fini d'exploser en Espagne. Voilà, donc on est face à des problématiques de financement des États qui sont majeures, et où, en effet, tout repose sur la confiance. On voit que la confiance, on lui enlève régulièrement des petites briques, et que pour le moment, ça ne s'écroule pas. Qu'on a dégradé les États-Unis au mois d'août dernier, bon, il n'y a pas eu de problème majeur, que... La Grèce a fait des défauts semi-partiels fin 2011, il n'y a pas eu d'écroulement. Que la France était dégradée début janvier, bon, il n'y a pas eu d'écroulement. Que la Grèce fait défaut, ah bah ça va, il n'y a pas d'écroulement. Qu'on va déclencher les CDS, donc les assurances qui garantissaient justement les pertes sur la Grèce. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir une panique gigantesque, mais malheureusement, c'est vrai qu'on est en train d'enlever des briques de confiance à chaque fois dans les investisseurs. La question, c'est évidemment jusqu'à quand ? Jusqu'à quand il y aura de la confiance ? Est-ce qu'on peut être dans des phases d'au moins équilibre des finances publiques ? Mais ce n'est pas gagné. Hein. Quand on voit la vitesse à laquelle on réduit le déficit, nous, c'est quand même assez inquiétant. C'est extrêmement long. Et ça a des conséquences majeures. Parce que, évidemment, comment on a diminué fortement le déficit en 2011 ? On a coupé les plans de relance de 2010. Donc là, ça n'a pas été très compliqué. En 2009, on a lancé des plans de 40-50 milliards, comme ça, de nouvelles dépenses pour aider l'économie. Bon, on les a coupés. Alors évidemment, c'est assez simple de ne pas dépenser des petits investissements comme il y a eu à ce moment-là. Donc ça réduit immédiatement le déficit. On voit que ça a une légère tendance à remettre l'économie en récession immédiatement. On lui a coupé ses plans de relance. Donc on a coupé 50 milliards de dépenses publiques. 50 milliards sur 2000 milliards de PIB, on voit que ça fait 2,50 de PIB, ces dépenses-là. Et évidemment, l'économie, ça n'aime pas trop ça. Et malheureusement, c'est un cercle un peu vicieux, parce qu'on ne peut pas non plus aller emprunter de l'argent en permanence pour aller soutenir, un peu en acharnement thérapeutique, une dette qui enfle. Voilà, donc ça va être l'enjeu de 2012. En termes de risque, bon, qu'est-ce qui se passe en Grèce en avril ? Qu'est-ce qui se passe en Grèce au niveau des élections ? Qu'est-ce qui se passe en Grèce au niveau de son économie et de son chômage ? Au mois de novembre, la Grèce a eu plus de 100 000 chômeurs de plus. En France, ça fait un équivalent de pas loin de 800 000 chômeurs en un mois. Ouais, s'il se passe ça en un mois, c'est pas très très sympa pour un pays. On attend les chiffres de décembre qui, à mon avis, vont pas être excellents. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, on a une économie qui est vraiment en dépression majeure, tout à fait type année 30. Hein, tout à fait. Enfin, l'impact sur l'économie grecque est tout à fait de cet ordre-là. Bon, la différence, c'est qu'il y a quand même un vrai filet social. On est sur un chômage, hein, même si elles réduisent. Enfin, en tout cas, il y a un filet social qu'il n'y avait absolument pas dans les années 30. Donc, on va dire que ça réduit la misère, mais enfin, on est quand même loin d'engranger des points positifs pour espérer, comme l'a dit Baroin, que dans un an ou deux, ouais, on bénéficie du rebond de croissance. Enfin, ça m'a fait rire. Aller parler de rebond de croissance, un pays qui, au dernier trimestre, hein, 2011, a quand même une récession de 7,5%. Pour sa quatrième année de suite de récession, enfin, on a du mal à se rendre compte qu'il y a 20-25% du PIB grec là, qui s'est volatilisé en 4-5 ans. Enfin, les témoignages qu'on peut lire montrent que bah, ça continue, qu'on a les entreprises qui ferment à tire-larigot, que les gens sont licenciés, et que ça va pas s'arranger en un an, en 2 ans, en 3 ans. Et évidemment, ça ne va absolument pas s'arranger avec les plans délirants qui sont faits de diminuer les salaires des fonctionnaires de 20%, les retraites de 25%, et maintenant il y a des pressions très fortes pour que les employeurs du privé baissent aussi les salaires. Sans quoi d'ailleurs le MEDEF local a dit, bon là maintenant on arrête, non on va pas baisser les salaires de... Amusant, pour que le MEDEF local dise ça, c'est qu'ils se disent qu'il y a vraiment un souci, mais il suffit de comprendre qu'évidemment l'économie est un peu en cercle fermé, et que bah, évidemment que l'entreprise, ça peut être sympa de payer moins les salariés, mais du coup ça veut dire qu'il y a moins de consommateurs en face pour les produits. Quand on ne paye plus du tout les salariés, d'ailleurs, il n'y a plus de consommateurs du tout. C'est quand même extrêmement bête à comprendre, mais bon, on a l'impression que cette forme de pensée-là est assez hémiplégique et qu'on est très orienté microéconomie où on regarde ce qui se passe dans une entreprise. Et dans une entreprise, après tout, il est logique que l'entreprise essaie de réduire ses coûts et de baisser ses salaires. Mais on voit bien que pour qu'un système ne s'écroule pas macroéconomiquement, il faut bien qu'il y ait des règles collectives, donc pas forcément dans la loi, mais qui sont au moins dans la négociation collective, des conventions collectives, pour empêcher et pour lutter contre ces phénomènes-là. Quelque chose qui était très bien compris d'ailleurs au début du XXe siècle, on dirait que c'est complètement abandonné. C'était toute la pensée d'Henry Ford qui disait qu'évidemment il fallait qu'il paye, qu'il décidait de... Enfin, il avait doublé le salaire de ses ouvriers, ce qui n'est pas rien, imagine doubler le salaire aujourd'hui de quelqu'un, pour que ses salariés consomment ses produits, qui est une vraie idée intéressante en termes de fonctionnement de capitalisme. Ça marchait pas trop trop mal, bon, il n'a pas été extrêmement suivi à l'époque évidemment. Mais en tout cas, il avait compris au moins ce point-là et il a écrit des choses très intéressantes. Bon, ce n'était pas un personnage extrêmement recommandable, mais enfin, bon, ce n'était pas quand même un grand capitaliste qui était assez juste, justement, sur la négociation collective. Parce qu'il a bien compris que la logique microéconomique d'une entreprise, si on l'applique à toutes les entreprises en même temps, bah, ça fait s'écrouler le système macroéconomique. Voilà, donc c'était une pensée tout de même assez partagée à l'époque. Aujourd'hui, on est plutôt sur une pensée de il faut réduire les salaires, il faut réduire les salaires, hein, comme l'avait dit d'ailleurs Trichet en début 2011. Là, qu'augmenter les salaires était la dernière bêtise à faire. On peut pas faire n'importe quoi, évidemment, mais dire que la bonne logique, c'est de baisser les salaires. Oui, bah, on le fait, on voit que ça marche pas. Hein. Intellectuellement, on comprend pourquoi ça marche pas, on le fait quand même, ça marche pas. Bon, ça, on en est sûr maintenant, ça c'est bien, et malgré tout, on continue. Et c'est vrai, tout à l'heure, Chaubleu m'a fait un peu sourire. Hein. Il était là en disant, bon, maintenant, le problème de l'euro, c'est qu'il y a des prix, une compétitivité qui est extrêmement différente entre pays européens, et c'est pas bon. Et oui, évidemment que c'est pas bon. Si on a la même monnaie, sa logique était de dire, bon, bah, il faut que chacun fasse des efforts pour qu'on converge en compétitivité. C'était sa phrase. Alors, évidemment, les journalistes n'ont pas posé la question, mais la bonne question, c'est oui, mais enfin, on fait comment, puisque l'Allemagne a fait une politique vraiment de déflation salariale et a baissé très fortement les salaires de ses... Enfin, baissé très fortement. On va dire, a gelé ses salaires pendant 5-6 ans. Donc, quand on... Je ne l'ai pas encore mis sur le blog, il est dans le livre, hein, ce graphique. Enfin, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, le coût salarial allemand, il est stable, tout à fait, pendant 7-8 ans. Non déflaté, donc, autrement dit, les gens ont perdu du pouvoir d'achat. Et quand vous représentez la France, eh ben, on a une augmentation qui suit un peu plus que l'inflation de pouvoir d'achat. Donc on compare souvent la France et l'Allemagne, mais ce qui est amusant, c'est quand vous mettez les 6-7 autres pays européens, et qui sont tous, d'ailleurs, avec des coûts qui ont plus augmenté qu'en France. On est le deuxième pays à avoir le moins augmenté les salaires, on ne le dit jamais. Mais c'est vrai qu'il y a un écart gigantesque entre, on va dire, la masse des pays européens et l'Allemagne. Donc du coup, l'Allemagne est devenue certes plus compétitive, mais je ne comprends pas bien sa logique, parce que si sa logique, c'est qu'il faut baisser les salaires partout. Alors certes, bah, du coup, bah, on va être, c'est sûr qu'on aura le même niveau de compétitivité. juste dans ce cas-là, ça veut donc évidemment dire que l'Allemagne sera moins compétitive. Et si elle est moins compétitive, elle va moins exporter. Et donc forcément, son excédent commercial, il va tomber à zéro. Si on fait tout ça, c'est juste logique. Par définition, si on est tous compétitifs pareil, les comptes vont se rééquilibrer. Or, aujourd'hui, le seul truc qui tient l'Allemagne, c'est le commerce extérieur. Parce qu'évidemment, sa consommation, quand on ne paye plus les gens, elle est tout à fait atone. Et c'est ses excédents commerciaux qui lui permettent de faire tourner son économie et d'avoir des résultats qui, certes, aujourd'hui sont très bons, mais enfin, elle est en train de se remettre de la pire récession de la zone aussi en 2009. Et ça marche encore parce que on continue, nous aussi, somme toute, à nous endetter pour acheter des produits allemands. Le jour où l'austérité va finir par taper un peu plus ses portefeuilles et pouvoir d'achat, le modèle allemand, il ne va pas en rester grand-chose. Enfin, c'est un modèle qui marche bien, c'est un modèle assez parasitaire, qui marche bien quand il n'y a qu'un parasite, en fait. Là, c'est sûr que maintenant, si on prend une communauté de parasites et rien d'autre, ils vont avoir du mal à survivre. C'est a priori le schéma qui semble malgré tout retenu par nos dirigeants européens dans le dernier traité. Dont franchement, je sais pas trop quoi penser. Est-ce qu'il sera vraiment mis en application? Et dans ce cas-là, on va être en récession carabinée, parce que si on essaye tous de faire de l'austérité majeure, parce que majeure, le traité européen qui a été signé, il précise qu'il faut quand même diminuer la dette de façon certes non négligeable. Il faut la diminuer de 5% de l'écart par rapport au niveau de dette aujourd'hui, par rapport aux 60% du traité de Maastricht. Donc il y a 25 points de plus à rattraper en 20 ans. Donc il y a un point à rattraper tous les ans si on suit le traité. Donc aujourd'hui, on est en déficit massif. Ça nous explique qu'il faut être quand même en excédent important pour aller, évidemment, ce qui est logique, somme toute, rembourser ces dettes passées. Enfin, on voit que l'écart, l'effort à faire, c'est... aujourd'hui, on a un déficit qui s'annonce à 5% du PIB. Donc s'il faut passer en excédent de 1, ça vous fait 6% du PIB. 6% du PIB, c'est 120 milliards en plus d'excédent. Enfin, il faut faire un effort de 120 milliards. Enfin, 120 milliards, c'est du délire à ce niveau-là. C'est deux fois les intérêts de la dette, c'est 150% du budget de l'éducation nationale, c'est 60% du budget de l'État. C'est bon. A priori, il faut faire ça tous les ans. Enfin, c'est vraiment, vraiment du délire. On se dit que c'est fait pour assurer les marchés pendant un an ou deux, mais que ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui se passe quand on va essayer. Bon, si on signe un traité, on va essayer de le faire. Mais évidemment, plus vous allez faire ça, plus vous allez dégrader, à mon sens, l'économie, comme le fait la Grèce ou comme le fait l'Espagne. Puisque ce n'est pas parce qu'on coupe 50 milliards de dépenses dans le budget de l'État qu'il y a 50 milliards de déficit en moins. Parce qu'évidemment, couper 50 milliards de dépenses, ça a des impacts majeurs sur l'économie. En tout cas, c'est pas un euro de dépense en moins égale un euro de déficit en moins. Ça, malheureusement, ce serait bien si c'était comme ça. C'est peut-être dans le joli monde de oui-oui, mais dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. Voire même, suivant ce que vous faites, vous allez avoir plus de déficit qu'avant d'avoir coupé les dépenses. Comme le fait la Grèce. Je repense au graphique justement sur le budget de la Grèce, où je représente les dépenses, les recettes de la Grèce, en mettant à chaque fois les plans qu'ils font. Donc là, ils augmentent la TVA. Bon, il n'y a pas un euro de plus qui rentre. Là, ils baissent le salaire des fonctionnaires. Il n'y a pas un euro de dépenses en moins. Pourquoi ? Parce que là où, sur le poste, il y a vraiment des dépenses en moins, tout d'un coup, vous avez des dépenses en plus, parce que les chômeurs qui sont virés, il faut les indemniser au chômage. Donc bon, avant, on payait un salaire de fonctionnaire. Maintenant, on paye un chômeur. Alors certes, au bout d'un an et demi, ils ne payent plus rien. Mais enfin, là, vous avez juste un RMiste qui ne consomme plus rien du tout. Et d'où une récession majeure. Voilà le petit point de situation. On a peut-être l'occasion de parler de la Banque centrale aussi qui a ouvert les vannes, mais je vais peut-être vous laisser un peu la parole, ce qui est l'idée quand même d'avoir un peu d'échange et non pas juste une conférence à sens unique. Donc, ça rigole pas. Donc je vous laisse la parole si vous avez des questions. Ah oui, non, mais là, c'est sûr que c'est là, on part vers un étranglement total, mais sauf que ça va être un étranglement total non plus de la Grèce, mais de plusieurs grands pays européens et sans doute mondiaux en même temps. Oui. Alors on voit qu'on va avoir du mal à étrangler tout le monde en même temps, par définition. Donc il y a plusieurs, je ne suis pas une pitié, hein. J'essaye de voir un peu ce qui peut se passer, quels sont les scénarios les plus probables. So what, je pense qu'au bout d'un moment, les investisseurs vont voir que ça ne marche pas. Et je pense qu'ils risquent de ne plus prêter. Parce que si vous n'avez plus confiance dans un pays, vous ne lui prêtez plus d'argent, ce qui est assez logique. Et donc, il va y avoir un léger problème de financement de l'État. Donc le so what, donc je ne suis pas sur le scénario catastrophique non plus, faut pas. Ce qui se passe, c'est somme toute pas extrêmement compliqué. Vous avez un problème de dette et vous ne pouvez pas rembourser votre dette. Et là, le problème, on s'est endetté, on ne peut pas rembourser les créanciers.
On continue à s'endetter, c'est ça le...
Alors on continue à s'endetter. Vous savez, quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez, c'est gênant. Mais tant qu'on vous prête de l'argent, ce n'est pas très gênant. À un moment donné, on vit très bien si c'est ça. Si tous les mois, j'ai un banquier qui me finance la moitié de mon salaire en plus pour que j'aille faire mes courses et avoir une vie sympa, je suis content. Je peux lui faire de près ce que je veux, mais s'il continue à me prêter de l'argent, c'est un jeu qui dure un certain temps. Nous, ça dure depuis 40 ans. Donc, la question, c'est comment s'arrête le jeu ? Est-ce qu'on arrive à redevenir raisonnable ? J'ai tendance à penser que non, parce qu'on a des dettes qui sont maintenant beaucoup trop importantes. Je pense qu'on aurait pu être raisonnable en 90, 95, voilà, à ce niveau-là. Je pense que les choses étaient maîtrisables, comme ont pu le faire le Canada ou comme ont pu le faire quelques petits pays. On en parle souvent, mais enfin, c'est quand même aussi des petits pays qui ont fait, certes, des efforts importants dans un contexte particulier, dans un contexte mondial prometteur. Enfin, ça marchait plutôt bien. Ce n'était pas tous les pays occidentaux qui soutiennent l'économie mondiale qui ont le même problème en même temps. Voilà, mais à la rigueur, tant qu'il y a des investisseurs qui prêtent, voir si j'étais un peu plus vulgaire, j'avais tant qu'il y a des couillons qui prêtent, qui prêtent, enfin, ça marche bien, enfin, pour après tout, on ne fait pas d'efforts. Enfin, le plus beau, c'est quand même les États-Unis. Les États-Unis ne font rien, aucun effort. Quand on regarde, ils n'ont fait aucun effort sur leur déficit depuis un an, c'est très drôle. Pas un seul mois, ils ont été, parce que malgré tout, le déficit mensuel américain, il varie. Il est sur une période moyenne, il est énorme le déficit, mais il y a des mois où quand même ça va un peu mieux. Donc quand on le trace, il est essentiellement en perte, mais il y a des mois où quand même ils sont en excédent. Ça fait un an et demi qu'il n'y a pas un mois en excédent aux États-Unis. Donc c'est juste, voilà, aucun effort. Donc du coup, ça marche un peu mieux. Parce que ça me fait rire, parce qu'on vous explique que... c'est amusant, hein, dans les discours, de temps en temps, vous dites, regardez, il faut faire l'austérité, il faut faire des trucs. Et oui. Pour vous dire, regardez les États-Unis, ça marche mieux qu'en Europe. Bah oui, mais c'est sûr qu'ils n'en font pas. Donc, c'est sûr que si l'État il continue à dépenser 150 milliards, je vous garantis que l'économie elle va mieux. Enfin, s'il a 150 milliards de déficit, l'économie elle va mieux que si on n'a que 80 milliards de déficit. De toute façon, donc, dans ces conditions-là, l'économie est mieux que s'il n'y a pas de déficit du tout, parce que vous êtes en train de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Donc c'est plutôt bénéfique. Et ça tient tant qu'il y a des investisseurs qui alimentent cette cavalerie. C'est la cavalerie. Hein. C'est-à-dire que le schéma... vous gagnez 100, vous dépensez 150, donc il vous manque 50, donc vous allez emprunter à la banque A à 50, il faut la rembourser au bout de 2 ans, donc pour rembourser les 50, vous allez emprunter 52 à la banque B parce qu'il faut payer des intérêts en plus, puis au bout de 2 ans, vous allez voir la banque C, vous empruntez 60, enfin voilà, vous êtes en train de rouler de la dette en permanence, tant qu'il y a quelqu'un qui vous prête de la dette, ça roule, c'est un jeu à la rigueur qui est pas gênant, en fait vous êtes en train de payer avec des promesses de payer plus tard, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent, on dit, promis, un de ces quatre, on va lever les impôts, on peut rembourser tout le monde, c'est une promesse qui est faite. Évidemment, ça marche parce qu'on a confiance dans la promesse qui est faite. Voilà, donc c'est un jeu qui dure et qui peut durer à la rigueur longtemps. Alors, si on a des déficits de 100 milliards et puis que tout le monde est content, bon, c'est très bien. Des scénarios un peu à la japonaise, c'est particulier le Japon. Mais le Japon, c'est fou, hein, ils ont 100 d'impôts, ils dépensent 300. C'est-à-dire qu'ils font 200 de déficit pour 100 d'impôts. Ça va pas bien. Quoi. Bientôt, ils vont arrêter de payer des impôts et puis ils vont juste faire de la dette. Enfin, c'est quand même assez amusant. Et ça tient depuis un moment, eux. Alors, ils ont une épargne un peu particulière. Mais de toute façon, vous faites que décaler votre problème dans le temps. Ça monte, au bout d'un moment, ça arrête de monter. Ça, c'est juste mathématique, bien sûr. Et ça pète. Et un peu particulier le Japon, donc c'est pour ça que ça n'a pas tout à fait pété, mais ça finira par péter, surtout avec une population vieillissante qui un jour va avoir besoin de leur épargne. Parce qu'évidemment, plus la dette publique augmente. La dette, c'est pas quelque chose comme ça d'immatériel. Elle est matérialisée par une créance. Donc en face de la dette publique, vous avez des obligations privées. Les obligations privées, elles sont aujourd'hui dans des banques ou chez des assureurs. Vous avez une richesse en face. Donc plus la dette publique augmente, plus vous avez une créance privée qui est la contrepartie, c'est une simple comptabilité qui augmente. Puisque vous avez l'État qui est en train d'emprunter à des personnes privées. Ce qui veut dire que vous avez un échange, la personne privée donne de l'argent à l'État, ce qui est le schéma d'impôt, mais, sauf que ce n'est pas des impôts, parce que l'État en échange lui donne un bout de papier en disant « je vous rembourserai cette somme-là, un de ces quatre ». Simplement ça. Ça veut bien dire qu'en face, c'est quelqu'un qui a une richesse, qui a transformé son épargne en un bout de papier de l'État qui lui dit « je vais vous rembourser ». Comme la dette roule beaucoup, à la rigueur, vous ne faites pas ça une fois tous les 20 ans, vous le faites évidemment en termes de flux tous les mois pour la France, mais la durée moyenne de détention de la dette est de 7 ans, donc vous avez un roulement d'un septième tous les ans. Comme en plus vous avez des financements à court terme, la première année, vous avez même des sommes beaucoup plus importantes. Donc en fait, il vous faut beaucoup, beaucoup d'argent tout le temps pour rouler simplement votre dette. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de tous les grands pays. Je parle des États-Unis parce que c'est énorme, parce que c'est quand même de loin l'État qui fait strictement rien pour ses finances, qui a montré que politiquement, ils sont, un, ils s'en foutent, et deux, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, hein, il ne peut pas y avoir de consensus au niveau des politiques américains. D'ailleurs, c'est juste flippant. C'est juste flippant. Enfin, s'il y a vraiment quand même un pays où, à la base, il ne faudrait pas prêter, c'est eux. Bon, il se trouve que, pour X, Y raison, plus ou moins logique, plus ou moins avouable, ça continue à aller pas trop mal pour eux, même si leur roulement de dette, je ferai l'étude ce week-end, mais début 2011, elle était faite uniquement par la Fed. Fin 2011, ça a l'air de s'être un peu arrangé, mais quand on regarde, pratiquement le monde, enfin les étrangers prêtent pratiquement plus rien aux États-Unis. Donc ils sont en train de rouler leur dette un petit peu sur leur propre population, et surtout c'est la Fed qui monétise, donc c'est leur banque centrale qui est en train de racheter la dette. Donc ça, c'est un petit moment aussi, ça, c'est un petit jeu qui s'arrête, puisqu'on ne peut pas créer de la richesse à partir de rien pendant un petit moment. Eux, ce qui n'est pas le cas de l'Europe, mais eux, ils font un peu tourner la planche à billets dans des conditions un peu particulières. Puisqu'ils ont la monnaie de réserve, donc à la rigueur, ils font tourner la planche à billets, mais leurs dollars, ils finissent par quitter les États-Unis.
C'était la banque qui prêtait à l'État avec un intérêt minime, et là ça fonctionnait. C'est la banque d'État ou
la banque de France. Mais non, mais c'était pas toujours, voilà. C'était pas toujours, c'était seulement à quelques périodes bien particulières que l'État présentait ses avances à la banque de France. C'était pas toujours. Hein. L'État faisait appel au marché aussi avant 73. Hein.
Oui, mais là, on dirait que c'est comme une logique qui ne peut plus changer. Ça n'est plus possible que ça soit la Banque de France qui prête à l'État.
Ça doit forcément... Depuis
113. Non, contrairement à ce qu'on pense, c'est quasiment plus possible.
Pourquoi ça a été changé à ce moment-là? Quel était...
Ça n'a pas été changé. Donc, c'est pas une histoire d'intérêt. Ça n'a pratiquement jamais été utilisé, contrairement à ce qu'on pense. Déjà en 1930, depuis 1936, déjà, c'est plus guère possible. Avant 1936, quand vous étiez en régime d'État en or, vous ne pouvez pas le faire non plus. La Banque de France, il faut arrêter d'imaginer que la Banque centrale, la Banque de France, a imprimé des 100 et des 1000 pour aller donner ça gratuitement au budget d'État. Non, c'est complètement faux. Ça s'est fait à 3-4 périodes un peu particulières de la France. Ça s'est fait en 1910 pour les inondations à Paris. Ça s'est fait en 1931. Ça s'est fait pendant la Première Guerre mondiale. Ça s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand la Banque de France l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a fait de l'inflation à plus de 30% pendant 3 années. Ouais, c'est ça. Oui, 30% par an pendant 3 années. Hein.
En 1931, c'était 25 milliards de francs et le résultat, le lendemain, la bourse avait pris 10%. C'est-à-dire que tout le monde avait analysé que l'inflation allait pouvoir en résulter de l'avance de la Banque de France. Donc en effet, si on veut revenir à un tel système, c'est simple.
Non, mais c'est ça.
On va surveiller de près les avances. Les bilans de la Banque de France paraissaient toutes les semaines dans le Petit Parisien.
Ouais.
Les gens surveillaient ça de près.
Mais ça, bon, maintenant, c'est fort heureusement illégal, parce que c'est. On peut discuter du niveau d'inflation que ça déclencherait, mais contrairement à ce qu'on pense, si vous allez là-dedans, il faut imprimer des sommes qui sont juste gigantesques. De toute façon, c'est facile, hein, vous avez 1 800 milliards de dettes à rouler en 7 ans. La masse monétaire en France est d'à peu près 1 000 milliards. Donc, vous voyez assez vite que c'est. Alors, on peut discuter, est-ce que ça vous fait 150% d'inflation, est-ce que ça vous fait 200, est-ce que vous en faites 2000, parce qu'après, partant de là, vous risquez d'être dans une fuite totale devant la monnaie.
Enfin, et on sait bien que ça s'est reporté sur les prix immobiliers.
Exactement, oui.
Les chiffres de l'inflation
sont pas truqués, mais on regarde pas les bons. On regarde pas les bons.
Oui. L'immobilier, c'est quand même une dépense.
Ça, je pense que nous tous autour de la table, le fait que les prix de l'immobilier aient doublé.
De noyer le poisson, ou de déformer la réalité. Donc,
bien sûr.
Dire, enfin, voilà, je pense que.
Non, c'est tout à fait juste.
Je pense que. dogmatique sur l'histoire de la Banque centrale, parce que l'inflation. Voilà, dans tous les cas, on a l'inflation, parce qu'il faut, dans tous les cas, faut que la masse monétaire augmente pour suivre la croissance.
Ah oui, non, mais là, si vous.
Dans tous les cas, il y a de l'inflation quelque part. Dans une économie pas totalement efficace, il y a toujours l'inflation quelque part.
Ah oui, non, mais là, c'est sauf que si on se met maintenant à doubler la masse monétaire en 2-3 ans, c'est plus de la croissance. C'est ça. Mais ça peut être une voie, après tout. Hein, ça, après, tout est possible.
Mais est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas, 10% d'inflation, mais 10% aussi de croissance.
Non, mais c'est pas 10%, en fait, on va être très clair. Hein,
ça
non,
pas très... Il vaut mieux une récession de 5% et 0% de croissance.
Oui,
non, mais. Il y a des débats là-dessus. Aux États-Unis, il y a énormément d'économistes qui s'intéressent à ça. Qui disent qu'il vaudrait mieux plus d'inflation, mais.
Non, mais il y a des économistes qui disent que ce serait bien qu'il y ait 5% d'inflation. Oui, mais ce serait bien qu'il y ait 5% d'inflation.
Non, c'est pas ça qu'ils disent.
Ah, si, non, mais c'est ce qu'ils disent. Ah, bah...
Il vaut mieux un peu d'inflation. Ouais. Mais
tu as dit le bon mot.
La croissance réelle, au final, est zéro. Mais il vaut mieux une croissance zéro, mais où l'activité continue, en gros, plutôt qu'une grosse récession qui détruit tout.
Alors, tu as dit le bon mot. Le bon mot, c'est il vaut mieux un peu d'inflation. Dit que les besoins à imprimer font que vous avez normalement la première année entre 50 et 100% d'inflation. Je ne sais pas si c'est ce que tu appelles un peu d'inflation. Il faut m'expliquer comment tu as moins que ça si tu te mets à imprimer de la monnaie.
La question, c'est où est-ce qu'on imprime l'argent pour la donner à qui ?
C'est pas à qui. Tu l'imprimes de l'argent pour le donner à l'État, puisque par définition, dès que tu fais ça, il n'y a plus un investisseur sain d'esprit qui te prête de l'argent. Il n'y en a plus un. Il n'y en a plus un qui te dit, j'ai pas de souci, je vais vous prêter mon épargne parce que vous êtes en train d'essayer de m'arnaquer en faisant de l'inflation. L'investisseur qui a déjà prêté. Mais l'investisseur qui a déjà prêté, c'est une chose. Ton besoin est d'avoir tout le temps des nouveaux investisseurs qui ont de les vraies épargnes et qui décident de te la donner à toi plutôt que de la mettre ailleurs. Donc si tu es en train de leur dire, j'ai pas de souci, je suis en train de faire n'importe quoi avec ma monnaie, bon courage pour avoir des investisseurs qui vont te prêter de l'argent. Le besoin... Agence France Trésor de cette année, d'au moins 500 milliards d'euros à lever. Je rappelle que le budget de l'État, c'est 200. Il faut 500 milliards. Donc il faut que tu trouves des gens qui prêtent 500 milliards de leur épargne à l'État. Va les convaincre quand tu leur dis « j'ai pas de souci, je suis en train de faire en sorte de vous rembourser en billets de Monopoly dans 5 ans ». Bon courage, vas-y, essaye. Donc si tu commences ça, forcément derrière, t'en fais pas un peu, tu es obligé de tout imprimer. C'est logique parce que où tu imprimes tout, comme tu ne trouveras pas tes 500 milliards, il faut imprimer 500 milliards. Ou sinon, tu fais défaut, que tu notes voix. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas sur une création monétaire. Donc, si tu imagines bien que tu crées de la monnaie entièrement. Donc, tu finances le budget complet de l'État. Et donc, tu as financé forcément toute la dette en nouvelle monnaie en 7 ans, puisqu'elle roule en 7 ans.
Mais là, ton
souci, ce n'est pas de donner aux gens. Non, mais ça, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Le problème qu'il y a, c'est comment je finance l'État. Après, tu peux me dire, en plus, on va donner de l'argent aux gens, donc on pourra en imprimer 8 fois plus, hein, si tu veux. Mais déjà, le souci principal, c'est de créer de l'argent pour le donner à l'État dans ce schéma-là. C'est juste que ça, assez mathématiquement, et si on peut discuter de la frontière, je ne vois pas comment, en 2 ans, ça ne fait pas 100 ou 150% d'inflation. Je ne sais pas si on voit... Ah oui, non, mais après, c'est un choix entre nous. Est-ce qu'on veut 150% d'inflation ? Pardon ?
C'est pas ce qu'ils font les États-Unis.
Les États-Unis ne font pas tout à fait ça. Ils en impriment pour le moment un tout petit peu. Ils ont tendance en plus à avoir des accords avec les banques pour faire en sorte qu'une grosse partie de cet argent-là n'aille pas dans l'économie réelle.
Ils n'achètent pas sur le marché primaire, ils achètent sur le marché secondaire.
Exactement. Et surtout, donc, malgré tout, ces trucs-là, c'est censé déclencher de l'inflation. Sauf que les États-Unis ayant la monnaie de réserve mondiale, les dollars qu'ils créent, ils quittent les États-Unis. Évidemment, puisqu'ils ont la monnaie de réserve. Donc il y a besoin des dollars dans le monde. Et donc l'inflation qui aurait dû toucher les États-Unis de façon sympathique est exportée sur le prix des matières premières, est exportée sur comme le dollar baisse, et ça se retrouve à faire monter évidemment les prix des produits brésiliens. Donc faut aller voir ce qui se passe au Brésil aussi, qui a quelques soucis importants avec la politique américaine et qui est en train de prendre des mesures assez protectionnistes là-dessus. Donc évidemment que les États-Unis ont un privilège d'avoir la monnaie de réserve mondiale pour le moment. Oui.
J'ai deux questions stupides.
Alors ne sont pas stupides.
La première, c'est pourquoi il y a eu une augmentation si importante de la dette, hein, une première question stupide. Et la deuxième, tout aussi stupide. c'est est-ce qu'un État peut fonctionner sans dette est-ce qu'une économie d'un pays peut fonctionner sans dette de l'État
Alors pourquoi la dette
c'est vraiment stupide, hein.
Bon. Enfin, d'où vient la dette? La dette est venue. Ça dépend des périodes. Il y a eu une explosion de la dette, évidemment, déjà avec la crise. Parce que depuis que Sarkozy est élu, c'est 500 milliards de dettes sur 1800. Donc on voit déjà, vous avez un stock sympathique qui est lié déjà aux impacts de la crise pour quasiment intégralement cette somme-là. Par écroulement des recettes et par augmentation des dépenses de soutien à l'économie. Sur les dettes un peu plus anciennes, elle est venue. Ça dépend comment on l'analyse. Enfin, la police dirait que vous ne levez pas assez d'impôts par rapport à vos dépenses. J'aime pas trop dire, parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. Bon, d'un côté, c'est vrai, évidemment, parce qu'on a dépensé plus que ce qu'on gagne. D'un autre côté, il y a aussi un coût de la dette qui est important. Donc, le total des intérêts payés sur la dette depuis 1975, c'est quasiment le montant de la dette. Voilà, donc on s'est aussi endetté pour payer des intérêts sur la dette passée. On peut dire que fondamentalement, ton problème est qu'il y a un refus de faire les efforts qu'il faut, et les efforts peuvent être sur les dépenses ou sur les recettes, peu importe, à la rigueur, je ne me prononce même pas, ici c'est plus politique comme vision, mais il y a une volonté de ne pas équilibrer les comptes quand ça va bien. Et alors si vous n'équilibrez pas les comptes quand ça va bien, et comme quand ça va mal, il n'y a plus grand-chose à faire, vous vous retrouvez en permanence à avoir de la dette. Donc vous avez un petit peu de dette quand ça va bien et beaucoup de dette quand ça va mal. Bon, au bout de 40 ans, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes accumulées.
Un des problèmes, peut-être, c'est qu'on finance des dépenses courantes avec de la dette, alors que normalement, en bonne gestion, on devrait des dépenses d'investissement.
Je suis d'accord, mais si tu... Je ne partage pas trop cette vision-là, pour être franc. Je ne la partage pas sur l'État. Bon, évidemment, sur la sécurité sociale, il n'y a pas de discussion. Il devrait y avoir interdiction absolue d'une dette. Bon, mais la dette de la Sécu, elle est très faible, enfin, somme toute, par rapport aux collectivités locales. Ça se défend. C'est une vision évidemment logique. Hein. C'est ce qu'on fait tous particuliers. On s'endette pour un investissement. Donc, quand on fait un gros investissement, quand on achète un appartement, on s'endette beaucoup une année. Et puis, pendant 30 ans, vous remboursez votre dette. L'État, à mon sens, dans l'analyse, n'est pas construit pareil. Déjà, pour commencer, les dépenses de l'État, moi, j'avoue, je ne sais pas trop séparer entre ce qui est de l'investissement et ce qui est du fonctionnement.
Ce qui est consommation immédiate, ce qui est...
D'accord. Le salaire d'un prof, tu le comptes comment?
Oui, on peut en effet dire que c'est un investissement sur l'avenir. Oui, tout à fait. Oui,
c'est-à-dire, entre le salaire d'un prof et un tarmac dans l'aéroport de Nantes. Je ne parle même pas du rond-point, là, en Corrèze.
Ah.
Non, mais c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est déjà difficile de savoir ce qui est de l'investissement, ce qui est du fonctionnement. Après, deuxièmement, je passe sur ce point-là, on te dit oui, mais on fait de la dette parce qu'on investit, et puis ça fera un retour sur investissement au bout de 20 ans. Dire, avec 1800 milliards de dettes, on attend le retour sur investissement déjà pour commencer. On sait très bien que ça n'arrive jamais parce que vous avez des tentations, la TVA sur la restauration à 5,50, enfin à 7 maintenant, on peut discuter, hein, j'attends le retour sur investissement. Et voilà, bon, c'est, je pense, extrêmement fallacieux comme analyse. Troisième point là-dedans, quand même en allant encore plus dans ton sens, oui, on ne veut faire que des investissements. Oui, mais j'ai un souci. Par exemple, construire un hôpital, ça on l'entend tout le temps. Ah bah oui, mais c'est normal quand on se construit un hôpital de s'endetter sur 30 ans quand on est l'État. Enfin bon, je caricature un peu. Oui, c'est, on dit comme ça, c'est juste. Maintenant, si tous les ans je construis un hôpital, parce que c'est un peu ce que fait l'État quand même, hein, au bout de 30 ans, quand j'ai construit 30 hôpitaux, si j'ai fait 30 fois de la dette, j'ai un petit souci. Et donc dans ce cas-là, pour moi, la vision de l'État, c'est que même quand il fait un investissement, pour moi, il fait du fonctionnement. Parce que le fonctionnement d'un État, c'est d'investir quelque part. Donc le schéma qui consiste à dire ça, oui, ça marche une année, ça ne marche pas 30 ans. Donc si tous les ans on construit un hôpital, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des recettes pour construire un hôpital tous les ans. Sinon, on est en train d'accumuler des promesses qu'on ne pourra pas payer.
Sur un point de vue philosophique, on peut tout discuter. Mais un hôpital pendant 30 ans va générer des recettes. Ce n'est pas de la consommation immédiate. Un prof, c'est une dépense récurrente. C'est-à-dire que tous les ans, il faudra alimenter ce prof. Donc en effet, c'est une dépense pour l'avenir, mais c'est une dépense récurrente tous les ans. Donc là, on peut considérer que c'est de la consommation. Si l'État diminue ses dépenses, ça va avoir un effet sur l'économie. Ça va peut-être avoir un effet sur l'économie, en effet, sur l'économie au niveau de l'État. Mais cet argent, il ne sera pas placé en emprunt d'État. Il sera peut-être placé ailleurs, sur des choses productives. Et non seulement nous qui avons chez Nicoque, on fait ces dépenses en moins, serait profitable à l'économie.
Alors qu'est-ce qu'on fait comme dépenses en moins? Je te demande. Non, mais vas-y, tu as le budget 2012. Donc, budget 2012, qu'est-ce qu'on enlève? J'enlève des profs? Non, mais je sais pas, je pose la question. Hein, je suis pas dogmatique sur la question, vraiment. Mais je te demande. Bah, très bien, donc tu as les clés, qu'est-ce qu'on fait?
Petit point, un instant. Une petite question. On parlait du taux de la sécurité sociale tout à l'heure.
Oui.
Moi, j'ai lu apparemment sur la commission des comptes qui disait qu'une bonne partie de la dette était liée à des exemptions qu'avait fait l'État. Et qui n'avait pas compensé le trou qui était lié à des exemptions qui avaient été faites à différentes catégories d'entreprises ou ce genre de choses.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que je crois que j'avais entendu 70% en gros.
Ouais, une rumeur sur Internet qui circule comme ça, non, c'est assez peu, c'est pas vrai. Il y a assez peu de dettes de l'État face à la Sécu. C'est vrai qu'il y a un buzz comme ça sur Internet qui circule. Mais combien même? So what? C'est-à-dire que l'État, il aurait fallu qu'il fasse encore plus de déficit et qu'il emprunte encore plus pour qu'il n'y ait pas de déficit à la Sécu. Ok, il faut regarder agrégé. Agrégé, il manque de
temps. Qu'il ne le compense pas sur la sécurité sociale, si c'était exact.
D'accord, mais donc dans ce cas-là, je répète, on fait quoi? Finalement, tu as un déficit. Donc, ou tu augmentes les recettes de la Sécu, ou tu augmenteras les recettes de l'État pour qu'il rembourse la Sécu. Enfin, de tous les cas, il va falloir augmenter les recettes. Mais ceci étant, c'est pas vrai. Hein. Il y a pas de. Il y a d'ailleurs un communiqué de la sécurité sociale là-dessus qui a combattu cette rumeur qui circule pas mal sur Internet. Oui.
Donc, mais... Ce que vous nous dites, la seule solution, c'est le défaut global à la France.
Ah, mais attention, hein. Je ne propose pas de solution.
Ouais, voilà.
Je propose une analyse. Je dis juste, il me semble que tout ça devrait finir par un défaut. Voilà. Hein, ma première intervention que j'ai faite à BFM en septembre, le premier truc que j'ai dit, c'est la Grèce ira au défaut. Bon, ils sont un peu rigolés en se foutant de ma gueule en disant c'est encore le petit jeune qui passe. J'ai pas de soucis, mais enfin, il me semble qu'elle a fait défaut la semaine dernière. Moi, j'ai pas bien vu, hein, mais quand vous avez perdu 75% de votre prêt à la Grèce, il me semble que j'appelle ça un défaut. Bon. Alors, c'est encore pas un vrai défaut, hein, parce que maintenant, elle, malgré tout, non seulement elle fait défaut de 75% sur ses investisseurs privés, mais elle doit encore 250 milliards à l'Europe. Donc, vous verrez quand même la deuxième couche du défaut après. Voilà, mais je dis absolument pas que c'est une solution. Oui, il y a quelqu'un fou furieux qui trouve que c'est une très bonne idée qu'on fasse défaut. Non, c'est une très mauvaise idée de faire défaut. Je crains que malheureusement ce soit la seule solution parce que ça finit toujours comme ça. Notre solution, ça peut finir par une hyperinflation à 200-300%. Bon, bah, si vous avez du patrimoine, prenez-le en photo parce qu'il va fondre des deux tiers. Fin...
Alors, vous m'aviez posé la question, alors comment on fait? Alors, c'est pas moi qui
l'a fait. Non, mais je disais ça puisque tu parlais de l'exemple de la consommation.
Je termine.
Oui, je te finis. Non, je suis d'accord.
Il faut qu'il y ait un politique, des politiques qui, à un moment, viennent voir le peuple français. Avec des discours, on va vous donner du pognon, on va faire de la dette, on va avoir une discussion entre adultes.
Oui, non, mais.
Pour solutionner le problème.
Non, je suis d'accord sur l'idée que voilà, il faut regarder la rigueur, ce que tu veux faire du public, du privé, et puis ça se discute. Bon, j'ai une position qui est plutôt, il faut qu'au final, juste les comptes soient équilibrés. Alors après, vous choisissez ce que vous faites. Évidemment, ça relève du débat démocratique. Mais juste le petit point sur lequel j'insiste, parce qu'on le passe souvent à l'as, cette idée, par exemple, de diminuer les dépenses. J'ai pas de souci, on peut diminuer les dépenses. Il y a qu'à virer des. Alors, je vais pas dire des profs, parce que tu vas me dire que c'est caricatural. Il y a qu'à virer un gras de papier quelconque dans une administration, et puis ça fait une économie. J'entends bien, mais qu'on soit bien d'accord. Quand on parle de diminuer les dépenses, tu touches pas aux recettes. Donc, on ne touche pas aux recettes. Donc, on paye toujours autant d'impôts, sauf qu'en face, l'État, il dépense moins, et donc on est en train de se rapprocher d'un équilibre. Donc, on a bien deux possibilités. Soit ce qui a été supprimé comme dépense, soit elle est transférée au privé, parce que c'est utile à la société, on va considérer que c'est transféré au privé. Alors, si c'est transféré au privé, on est bien d'accord que quand c'est transféré au privé, le privé ne va pas le faire gratuit. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il va bien y avoir une charge supplémentaire pour l'économie, puisque avant, ce que faisait l'État, c'est souvent un discours anti-État, j'entends bien, c'est pas durable et c'est pas sain, mais en attendant, aujourd'hui, vous le faites gratuitement quand même.
Il
fait gratuitement, il vous promet une dette, mais comptablement. Oui, il a emprunté, mais vous l'a fait gratuitement. Tu n'as pas payé ce truc-là. On t'a dit qu'un jour tu vas le payer, mais tu ne l'as pas payé. Donc le privé, je pense qu'il va faire plus cher que gratuit. Donc, il y aura moins de pouvoir d'achat pour avoir la même consommation. Je ne sais pas si c'est l'école privée, ben, paye l'école privée en plus. Si c'est je sais pas, un autre type de dépense qui est privatisée, on sait, tout est n'importe quoi. Ben, donc, il va falloir. Donc, dans ce cas-là, c'est moins de pouvoir d'achat pour les gens qui vont devoir racheter au privé ce qu'ils avaient gratuitement de façon folle. Hein. Mais en attendant.
Ça... Ne rachètera que ceux qui en ont besoin.
Oui, alors, ne rachètera que ceux qui en ont besoin. Ou alors, la deuxième solution, c'est.
Il y a pas mal de gens qui n'en ont pas besoin et qui en profitent de ce service qui ne le rachèteront pas parce qu'ils ne verront pas l'utilité comme ils auront à le payer.
D'accord. Alors, sans doute, la question est les gens qui vivaient de ce service, qu'est-ce qu'ils deviennent?
L'argent qui est mis dans ce service sera mis ailleurs.
Mais il sera mis ailleurs d'où? Il n'était pas mis dans ce service, il n'est pas payé de ce service. Je répète, il n'y avait pas d'argent, il était fourni gratuitement ton service. Non. Le truc, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ça, déjà, ton épargne extérieure, elle vient aux deux tiers de l'étranger et tu recycles l'épargne.
C'est une histoire de balance. C'est parce que j'achète des produits à un pays étranger qui se retrouve avec des devises. Ces devises, il doit les replacer en France parce que qu'est-ce qu'il va faire de où
sur le. Ah oui, non mais d'accord, en fait, tu as différentes façons. OK, mais tu n'es pas obligé de. Ça dépend, tu es en zone euro. Après, ils ont encore le choix du pays quand même.
Entre venir dans un pays où il y a 30% de dépenses publiques par rapport au PIB, un pays où il y a 56, je crois qu'il n'y aura pas photo.
Ça, je suis absolument pas d'accord. Et franchement, j'ai une vision. Je vraiment dénonce cette comparaison fallacieuse entre les pays au niveau de leur taux de prélèvement, parce que on est en train de mélanger deux choses qui sont les dépenses de l'État, où tu peux comparer très bien ce qui se passe entre ce que ça coûte entre l'État allemand, français, américain. Mais tu rajoutes dedans, dans ces chiffres-là, la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est une dépense comme une autre dans l'économie. Dans le 56% dont on parle.
11% du PIB en France est dépensé à la sécurité sociale, aux États-Unis 17%.
Oui.
Je veux dire, quel système? Sans aucun problème, je prends le
système. Mais non, mais attention, justement, là, tu es en train de parler des dépenses de santé. Des dépenses de santé, où en effet, les États-Unis ont un coût de santé qui est très élevé. Mais je ne te parle pas de la dépense de santé, je te parle de la dépense publique, puisqu'on parle de dépenses publiques. Et la dépense publique américaine, elle est très faible. Et elle est très élevée en France. Ce que je veux dire, c'est que quand vous comparez les prélèvements, vous comparez les tâches d'administration avec ce qui relève de la sécurité sociale, donc on va dire du financement public et d'un certain nombre de dépenses, qui vont être les dépenses de santé et les dépenses de retraite.
Or, 56, oui, en effet, j'avais inclus
bien sûr, mais c'est normal, c'est la comparaison classique. Mais sauf qu'on ne peut pas comparer ça, puisque ce qui compte aussi, c'est quelle est la part du privé public dans ces finances-là. Le budget de l'État net, il est de 200. Si on rajoute les collectivités locales, on doit être en net, en effet, à 300-350. Quand on fait une comparaison internationale en ne regardant que les coûts d'administration, on est pas mal placé du tout. On est le record du monde de la sécurité sociale. Mais tout simplement parce qu'on a choisi de mutualiser fortement notre protection maladie. Et si je suis en train de comparer en France avec un niveau très élevé de dépenses publiques par rapport à l'Allemagne.
Attention,
administration plus Länder. Oui, enfin plus standard, oui. Ben, tu prends les chiffres de l'OCDE, tu enlèves la sécurité sociale, tu vois qu'on est dans une gentille petite moyenne mondiale, parce que, comme on est recordman sur la dépense de sécurité sociale, et c'est bien, parce que la dépense de sécurité sociale, elle est à 70% public, donc forcément, il y a une grosse part d'argent et d'impôts qui sert à financer ça. Il y a d'autres pays comme les États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'argent public, mais donc il y a forcément plus d'argent privé, d'assurance privée. Et ça... Tu ne le compares pas. Donc, soit tu compares tout, donc tu prends toutes les dépenses de public plus les dépenses de santé aux États-Unis, soit tu fais ça. Et dans ce cas-là, franchement, il n'y a pas des écarts faramineux dans le monde. Oui, bien sûr. Tu as un petit écart. L'Allemagne a un peu plus de privé dans sa gestion santé. Mais soit ça ne change pas. Ah, pardon. Administration. Oui, bah d'accord, tu as quelques petits écarts entre pays. L'Allemagne est un peu plus faible que nous. Les pays du Nord sont un peu plus élevés que nous. Mais l'écart, il n'est pas non plus faramineux, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Il faut faire attention dans ces comparaisons internationales.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Oui. D'où ça vient? Une économie ne peut pas fonctionner normalement sans dette tout court. Mais en particulier, il faut de la dette privée, forcément. Sinon ça finit par pas marcher, parce que notre monnaie, c'est une monnaie de dette. Donc, s'il n'y a plus de dette, il n'y a plus de monnaie, c'est assez vite gênant. Mais oui, ça peut tout à fait marcher sans dette publique. Et de toute façon, pour une raison simple, je ne peux pas te faire remarquer qu'on vient de signer, qu'on va bientôt ratifier un traité qui nous dit qu'il ne faut plus faire de dette publique. Donc, là, la réponse, elle est... Pourquoi quoi?
Pourquoi je me posais la
Ah, mais c'est possible, mais c'est pour moi totalement impossible dans la situation actuelle. Tout à fait possible de tourner sans dette, mais on ne peut pas revenir à une situation saine quand tu as une dette colossale sur les épaules. Après un défaut, après une restructuration, oui, c'est possible. De toute façon, comme on ne prêtera plus d'argent, ce sera vite fait. Hein. Donc, il n'y aura plus le choix d'équilibrer les dépenses et les recettes. Non, ça veut simplement dire qu'il faut faire un choix de société, comme tu le dis très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Le problème, c'est qu'on nous pousse beaucoup. C'est peut-être une bonne solution, hein, mais on nous pousse beaucoup simplement en disant, en gros, il faut diminuer les dépenses pour rééquilibrer, ce qui revient à dire... on ne veut pas monter les impôts, donc on va agir sur les dépenses. Alors, on pense que ça ne marchera pas, tout comme une augmentation forte d'impôts ne marcherait pas non plus, parce que les sommes sont trop fortes. Mais ce schéma-là veut dire que je refuse de dépenser dans certains secteurs de l'économie, alors peut-être l'administration, enfin l'éducation, la recherche, ou la sécurité sociale, pour privilégier mon pouvoir d'achat sur le reste de mes dépenses privées. Je dis juste qu'on peut faire le contraire aussi. Ce qui est juste, c'est que globalement, le pays dépense trop. Donc, il va falloir qu'il dépense moins. Après, il faut juste qu'on choisisse où on dépense moins. Moi, personnellement, entre diminuer les retraites et diminuer les dépenses de bagnole, bon, ça ne me fait pas plaisir, je vais peut-être diminuer les dépenses de bagnole. Je pense que c'est peut-être plus utile. Ou d'investir dans des chercheurs pour la compétitivité du pays dans 20 ans. C'est un choix de société. Après, on peut faire le contraire. Mais je dis juste, ce n'est pas forcément que les bagnoles qui doivent l'emporter. Et donc, le pouvoir d'achat uniquement privé. Mais c'est une vraie question sociétale. Une vraie question sociétale. Puisqu'on dépense trop, qu'est-ce que je coupe dans les dépenses ? Au final, il va falloir couper dans les dépenses. De façon pas très agréable, mais j'y suis pour rien. Ça, il y a une dette maintenant.
Il y a des incantations aussi autour de la croissance.
Oui.
C'est-à-dire, la solution qui est préconisée, d'une part, c'est de faire des diminutions de dépenses, mais aussi de relancer la croissance.
Bien sûr. Ouais. Il y a gagner l'auto aussi. On peut le faire. Non, mais en croisant les doigts, peut-être, ça marche. C'est faux. Oui, non, mais c'est ça.
On est en pleine élection. Donc les grandes lignes sont tracées à travers les différents candidats. Et ce discours-là qui semble... ce dont on est en train de parler aujourd'hui apparaît peu dans les discours.
C'est pas qu'on puisse dire, ça.
Est-ce que, dans les différentes options qui sont présentées, est-ce que, selon toi, il y a des gens qui se rapprochent d'un point de vue qui paraît assez intéressant ?
Pas des masses.
Aucun ?
J'ai pas vu grand chose de très intéressant.
Non, mais juste un.
Ah non, mais c'est pas juste un. C'est, franchement, j'ai même pas d'idée. Je vois rien de bien intéressant.
Mélenchon, non.
Je pensais pas, c'est pas trop ma tasse de thé pour différentes raisons. Non, sur son programme.
Mais,
mais oui, c'est assez désespérant. Pour tout vous dire, j'ai découvert hier un livre que je trouve assez intéressant de Michel Rocard. Parce qu'il a sorti, vous me posez la question, il dit des choses intéressantes dedans. C'est très loin d'être la position du Parti Socialiste. Des choses intéressantes sur on est face à un vrai problème financier, on est face à un vrai problème écologique. Voilà, après, il y a deux, trois trucs sur le nucléaire qui a l'air d'être un peu sa lubie. C'est pas vraiment inintéressant. Bon, voilà, après le reste, mais voilà, bon, c'est en effet pas très. Je pense un peu l'intuition, et je me suis dit il y a deux, trois jours, je pense que si un jour en 2020, on raconte qu'en 2012, il y a la campagne présidentielle, on parlait de viande halal dans les cantines, avec ce qui se sera passé, je pense, en 2013-2014, je pense qu'on dira, mais vous étiez fous quand même, vous ne voyez pas qu'il y a quand même deux, trois sujets sérieux, c'était ça. Donc voilà. Donc, franchement, sur le blog, j'avais pensé faire une analyse économique, juste des programmes économiques, des programmes des 4, 5 grands candidats. Franchement, quand j'ai regardé, j'ai vu ça m'a foutu le moral à zéro, et puis on laisse tomber. Mais c'est triste, hein? C'est triste parce qu'en plus, il n'y a pas besoin de. Pas forcément d'idées révolutionnaires, quoi. Mais... Ouais, mais je pense que mentir aux gens, ça finit par être effrayant aussi pour les gens. Hein. C'est un truc important, parce que j'ai pas répondu à la question, somme toute, qui était... Ouais, c'est pas du sort de mensonge, je suis pas sûr. Je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup qui comprennent, hein, juste à la base. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de mensonges là-dedans. Hein. Franchement, pour en voir, pour en croiser, c'est assez effrayant. Le sujet, je répète, hein, c'est qu'on a dépensé de l'argent qu'on n'avait pas. On a dépensé le même argent deux fois. C'est ça, la dette publique, vous avez dépensé le même argent deux fois. C'est-à-dire qu'on vous l'a laissé pour vivre, parce qu'on vous a pas prélevé les impôts, et en plus, l'État l'a dépensé. En vous disant, entre ces quatre, comptablement, je vais venir vous le chercher pour rembourser ma dette. C'est ça l'idée d'une dette. Donc on a dépensé deux fois l'argent. Bah, pour le moment, la facture n'est pas présentée. Un de ces quatre, elle risque d'être présentée et d'être assez douloureuse. La dette par ménage imposable, donc la moitié des ménages français, c'est 120 000 euros.
Par ménage.
Ouais.
Donc, si... 130, mais bon,
ça change tous les jours. ça change tous les jours.
Ça n'a pas baissé de 10 000. Hein,
la moitié des ménages qui payent l'impôt sur revenu, si vous prenez ceux qui gagnent le moins, ils n'ont pas des masses hein, quand même. C'est quand même 1 500, 1 600 euros le salaire médian en France. Hein, donc, celui qui gagne 1 800 euros, vous n'allez pas lui prendre 100 000 euros d'épargne. Et donc forcément, si vous prenez les 10% des ménages qui gagnent le plus, bon, eux qui ont de l'épargne, la dette, c'est 1 200 000 euros. Par ménage, parmi le top 10, les seuls qui peuvent payer, quand même, vous allez lever 1 200 000 euros d'impôts, même en 5 ans, auprès de ces gens-là. Ouais, soyons sérieux. Mais de toute façon, en général, quand on regarde, les dettes d'État ne sont jamais remboursées. C'est quand même extrêmement rare. Elles roulent, et un jour, elles s'écroulent. Elles s'écroulent par un défaut, ou elles s'écroulent par l'hyperinflation. C'est ce qui s'est toujours passé. On avait de la dette française, elle était très très forte dans les années 30. Après quelques années de guerre, ils sont ressortis de la guerre, il n'y a plus rien. L'inflation à 30% pendant 3-4 ans, ça avait vachement réduit les besoins. C'est ce qui se passe en général. Et ça se passe, somme toute, pour, à mon sens, pour une raison très simple. Parce que pourquoi vous faites de la dette ? C'est parce que vous ne voulez pas lever des impôts. En gros, je caricature, mais c'est bien ça. C'est de la dette, c'est qu'on n'a pas voulu lever les impôts. Donc vous dites, aujourd'hui, je ne vais pas lever les impôts. Parce que je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas le bon moment, les trucs, ah, les élections, c'est trop, c'est pas assez. Je ne veux pas lever les impôts. Vous dites, je vais donc emprunter de l'argent. Promis, je lèverai des impôts demain. Mais si vous ne pouvez pas les lever aujourd'hui, les impôts, pourquoi vous allez y arriver demain ? Elle est où la logique ? C'est une logique bizarre quand même.
C'est là que j'aurais voulu faire un... Quand vous parliez des différents programmes, de leur similitude, ou éventuelle différence que personne ne trouve, je trouve qu'il y a une sacrée similitude dans l'histoire. C'est que ça fait quand même 30 ou 40 ans, dans des pays riches comme les nôtres, qu'on nous explique que, justement, l'impôt, il sera levé automatiquement par la future TVA sur une future croissance qui arrive. Sauf que de la croissance, à mon avis, enfin, c'est mon point de vue, depuis un moment, depuis 10 ans que ça se matérialise, chez nous, il n'y en aura plus. Parce qu'on est hyper saturé en tout, en équipement, en services, en instruction, en tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut tous vivre avec deux fois moins sans manquer. Donc, comme vous greffez dessus...
Oui, c'est caricature. Mais je suis d'accord, oui, non, mais oui, bien sûr. On est sur un niveau de développement. Oui, on ne peut pas développer un pays déjà développé.
Vous divisez par deux, vous n'êtes pas encore sur de la terre battue. Donc, de toute façon, la plupart des gens peuvent vivre avec deux fois moins sans manquer. Vous greffez dessus un problème écologique. Il n'est pas non plus judicieux de continuer à détruire les ressources de la planète pour jeter des trucs qui marchent et même vous payer pour et en fabriquer d'autres. Donc, je pense que la croissance qu'on attend, on ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu. Pardon, que les politiques se posent la question de proposer un programme à ISO revenu, à ISO...
À croissance zéro,
voilà,
ouais, on en est loin.
On va dire. Le problème, c'est que, bon, il y a 30, 40 ans, je ne m'intéressais pas trop, mais aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans, 25 ans que j'entends ça, particulièrement depuis 1995, donc déjà 15, 17 ans qu'on sait que ça va tenir. Est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi admettre que justement, avant, on dépensait l'argent deux fois, c'est qu'on a dépensé deux fois trop. Donc, peut-être. Évidemment, que vous me dites, on ne peut rien... Enfin, j'ai l'impression dans votre discours, des fois, que l'idée, c'est oui, mais on ne peut pas réduire parce que c'est inacceptable. On ne peut pas prendre là, on ne peut pas prendre là, on ne peut pas prendre là. Mais vous savez, un ménage surendetté, quand il y a son banquier qui dit, moi, je vous coupe votre XM revolving, il est obligé de se poser la question.
Ah oui, non, mais bien sûr.
Banquier, moi, je continue tout comme avant parce que je ne peux rien réduire. Il est bien obligé de couper un abonnement de portable sur deux, de limiter ses chaînes au câble, de peut-être pas faire rouler deux voitures quand il faut deux voiturages, etc.
Exactement. Donc, mais sauf que ma vision...
Je suis très d'accord avec votre analyse de départ, mais moins sur les solutions, c'est-à-dire... Sommes-nous vraiment au stade où il n'y a aucun moyen pour arrêter le délire ? J'ai l'impression que d'après vous, oui. Or, d'après moi, dans un pays qui a 10 000 milliards de patrimoine, même si une grande partie ne peut pas être liquidifiée, on va dire, en période de crise, enfin, il y a une partie, c'est l'espèce sonante et trébuchante, est-ce qu'on ne peut pas rectifier encore le tir de façon à... Écoutez, c'est pas compliqué, les pays voisins, quand je vois ce que fait l'Italie ou autre, ils vous coûtent des 50 ou des 40 milliards comme qu'ils rigolent, nous, on met deux ans à trouver 10, c'est quand même de la meilleure volonté. Il y a une volonté politique, quand même, qui pourrait rééquilibrer des choses.
Pour rebondir sur l'image du ménage surendetté, il y en a quand même 40 000 tous les ans qui se retrouvent à la Banque de France en expliquant qu'ils ne peuvent pas rembourser. Oui. C'est aussi une des pistes.
On les met plus ou moins sous tutelle, si vous voulez, mais on ne leur efface pas simplement la dette. Souvent, elle est rééchelonnée. Ça dépend du type de dette. Mais disons que globalement, la plupart de la dette est rééchelonnée. Et puis,
bah, il faut qu'ils se tiennent à un nouveau budget autant que possible. Hein. Si j'ai bien compris comment ça peut fonctionner, je ne voudrais pas que quand il s'agit de l'État, on parte du principe qu'aucune économie ne puisse être faite, qui ne soit pas préjudiciable au fonctionnement de tout le pays. Parce que là, je serais plutôt d'accord avec Philippe en disant que, attention, c'est facile de ne pas payer les impôts, de garder l'épargne, d'utiliser les services gratuits et de faire travailler, en gros, la génération d'après pour payer les intérêts sur ce qu'on roule. C'est ça. Notre déperdition aujourd'hui, les intérêts, ce n'est pas des méchantes banques qui les prennent.
Ah, pas du tout, non, bien sûr.
Qui les touchent en intérêt.
Il faut arrêter de parler des banques. Les banques ne font rien là-dedans, bien sûr. C'est un problème.
Si on regarde la pyramide qui possède, je sais que vous n'aimez pas trop, mais en gros, il y a quand même des générations qui en profitent depuis 40 ans et d'autres pas.
Ah oui, non, mais la génération. Oui, enfin, vous avez 70% de la dette, c'est ce que je dis souvent, qui est possédée par 10% de la population. Hein. La question, c'est est-ce qu'on se serre la ceinture pendant 30 ans pour rembourser 10% les plus riches. Après, c'est oui, c'est non. Mais...
Ah,
oui, d'accord, mais. Bien sûr qu'ils n'ont pas perdu pour tout le monde, oui. Non, mais je vous rappelle qu'à la base, moi, je suis contre la dette publique. Hein. Enfin, on n'est pas nombreux, hein, donc je me permets de dire. Et comment je solde le passé, bah, ça, c'est toute la question. Mais ça, je vous réponds.
Je suis tout à fait d'accord quand vous dites si on ne compte pas prendre les impôts aujourd'hui, parce que électoralement, je pense que c'est d'ailleurs un travers de la démocratie. À partir du moment où vous êtes obligé de raser gratis pour être élu et pour avoir le pouvoir que vous voulez, vous ne pouvez jamais dire la vérité aux gens de ce que vous cachez.
Je suis d'accord.
Bon, on va dire que c'est un travers de la démocratie. Après, il n'est pas non plus interdit de un petit peu réfléchir quand même.
On peut réfléchir, il y a bien sûr des économies.
D'autres économies un peu relativement démocratiques et relativement développées, je ne sais pas, Canada ou autre, ont rectifié le tir avant que ce soit trop tard, l'Australie, etc.
Oui, enfin,
ce n'est pas des pays sous-développés, ce n'est pas des atroces dictatures.
C'est loin d'être des pays sous-développés, vous êtes simplement... sur des montants à emprunter qui sont gigantesques, et vous êtes sous la pression des marchés financiers qui, depuis un an, de moins en moins confiance en vous. C'est un peu moyen là le sujet. Je répète, hein, s'ils nous prêtent encore pendant 10 ans, ouais, ok.
Donc votre remarque est plus due au fait que.
Mais dans tous les cas. Mais bien sûr. Mais dans tous les cas, même en cas de défaut, les intérêts de la dette, c'est 60 milliards quand même. Vous faites défaut, pas surtout, vous réchelonnez en intérêts. Il vous manque 40-50 milliards dans le pays, hein, qu'il faut trouver, par des économies, évidemment, et par des hausses d'impôts. Non, mais dans tous les cas, évidemment qu'il y a des impôts montés. Mais c'est pas la même chose de trouver 40 milliards que 120. Simplement, c'est ça. Et c'est 120 pendant des mois et des mois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit un peu vite tout à l'heure, mais ça, il fallait le
faire.
Oui, mais je pense que ces trucs-là auraient été efficaces en 90. Je crains, c'est qu'une crainte, je ne dis pas que c'est une certitude, que ce soit un peu trop tard. C'est dans ces eaux-là, où il y a un moment donné où bah, il y a trop de dettes. Enfin, on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de dettes, il n'y a pas de soucis. On voit quand il y a beaucoup de dettes, il y a des soucis. Donc il y a un moment, il y a une frontière. Quoi. Vous avez dépassé la frontière, vous n'allez plus arriver à faire. Ça, je crains, c'est qu'une crainte, je ne suis pas.
Qu'il soit
un peu tard. Non, parce qu'il y a une grosse pression. Les marchés financiers, maintenant, attendent des résultats dans les mois qui viennent.
Le Canada et l'Australie, je crois qu'ils ont quand même sacrifié une bonne partie de leur environnement aussi.
Oui, il y a des soucis. Ils ont fait des choses intéressantes, mais je répète, c'est une chose quand c'est un pays qui fait ça dans un contexte mondial plutôt sympathique, et ils l'ont fait quand même en 5 à 10 ans. C'est autre chose quand on essaye tous, juste France, Allemagne, États-Unis, Japon, de le faire tous ensemble.
C'est 2007, on est déjà 5 ans après.
Qu'on peut plus faire quoi ? Oui, non, mais jamais. Si ça se trouve, tant que les marchés ont confiance, et ils ont confiance encore pendant des années, tant mieux. Enfin, je répète, hein, l'Espagne qui signe quelque chose le vendredi matin, le vendredi après-midi, elle dit que désolé, elle ne respecte pas sa signature du matin, ça va un peu, il va falloir que je souhaite du plaisir pour trouver beaucoup d'argent pendant beaucoup de temps. Peut-être que ça marchera, mais je répète, c'est une question de confiance. Il ne faut même plus d'économistes à ce niveau-là, il faut des psychologues.
Non, on continue parce qu'il faut bien mettre l'argent quelque part. C'est-à-dire, vous expliquez à 10 personnes que les dettes d'État, c'est compliqué, ils vont quand même en souscrire chez leur banquier tous les mois avec leur surplus. La simple idée de laisser sur un compte courant le temps de réfléchir, ça les rend déjà.
Mais franchement, moi, j'ai pas.
Je sais pas, c'est par cupidité sur les intérêts, mais d'entretenir le système.
Moi, j'ai pas de soucis, juste je le fais pas. Donc, si à la rigueur, s'ils ont fait des mauvais choix, qu'ils perdent leur argent, si on peut éviter de me prendre mon épargne pour le redonner, je suis plutôt pour en fait.
On leur a garanti, j'allais dire.
Mais c'est quoi, on leur a garanti ? Oui, mais ça veut dire quoi ?
Voilà le problème.
Mais attends, oui.
Depuis ce matin, s'est passé sur BFM toute la journée, que depuis que l'Argentine a fait faillite, on aurait plus dû considérer d'être d'État comme un placement sûr.
Depuis que Louis XIV a fait défaut en 1715, on ne devrait plus, depuis que Charles Quint a fait défaut cinq fois, on n'aurait plus dû considérer, depuis que la Russie a fait défaut en 1900. Non, mais même sur le siècle, la Russie, ben quoi, la Russie, elle a fait défaut en 1918, elle refait défaut en 2001, donc c'est déjà pas mal.
Ok.
Ok, tu m'accordes que je ne suis pas très vieux? Tu m'accordes que je ne suis pas très vieux?
Mais il a choqué l'épargne de ses habitants.
Ça finira comme ça, ça c'est sûr.
Je trouve que la façon dont c'est présenté aujourd'hui pour dire qu'on a tout faux en Europe ne correspond pas à la réalité historique. Après, vous pouvez faire des recherches sur ce qui s'est réellement passé.
C'est parce que je veux dire, que la mémoire des investisseurs... Elle n'a pas été variable.
Elle n'a pas été variable, la mémoire des investisseurs. Depuis 35 ans, il y a eu 70 défauts dans le monde. Il faut arrêter de rigoler, il y a deux défauts par an. C'est après, voilà, on le fait ou on ne le fait pas. Quant à être conscient des risques, on est bien d'accord que les risques et les personnes qui sont en risque, ce n'est pas ceux qui ont 1 000 euros ou 5 000 euros d'épargne et des trucs comme ça. Ils ont, eux, leur épargne, elle sera remboursée. C'est les plus nombreux, ils ont peu d'épargne. Donc au total, ce n'est pas un gros problème. Le problème, c'est pour rembourser tous ceux qui ont plus de 200 000, 300 000, 400 000 euros d'épargne. Je considère qu'à 400 000 euros d'épargne, vous pouvez quand même vous faire conseiller correctement ou au moins acheter un livre d'histoire à 15 euros pour savoir ce qui se passe sur la dette publique. Bon, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. On vous l'a promis. Bah ouais, mais ça, quand on prête son argent à quelqu'un, il a tendance à vous mentir aussi pour l'avoir quand même, votre argent. Il ne faut pas être...
C'est qu'en France, il y a peu d'épargne personnelle. Parce que les gens ne gèrent pas leur retraite eux-mêmes. Mais quand vous prenez l'épargne indirecte, c'est-à-dire toutes les cotisations qui sont censées être fournies pour notre avenir, pour toucher de l'argent dans 20 ou 30 ans, ou 15 ans, ou 35 ans, selon l'âge des gens qui sont ici, il y a une épargne indirecte que vous ne gérez pas vous-même, mais qui peut très bien disparaître avec.
Non, mais ça, il y a très peu, puisqu'on a un régime de répartition. Donc, ça, on n'a pas ce problème qu'ont les Américains, avoir une grosse retraite par capitalisation et donc des fonds énormes qui sont en train de fondre et vous se demandent comment ils vont avoir une retraite demain.
Vous pensez que c'est la répartition qui nous
sauverait ? Ah oui. Mais ça, le propre du régime par répartition, il peut avoir des défauts, mais il a une grande qualité, c'est qu'il ne fait jamais faillite, en fait, le système. Il ne fait jamais faillite. Vous réaffectez, pardon ?
C'est par répartition ?
Bah oui.
Regardez le compte de Lénine, par exemple.
Le compte de.
Non, mais ça,
c'est des cas particuliers. Quand on est au niveau d'une nation, vous équilibrez les recettes et les dépenses et vous faites un débat national, vous vous demandez combien vous voulez pour les retraités. Oui. Enfin, là, il y a des Américains qui ont leur pension de retraite 401k, qui sont sous-capitalisés de plusieurs milliers de milliards de dollars. On est en train de leur dire, désolé, votre retraite, c'est 30 ou 40% de moins quand même. C'est juste parce qu'il y a eu des pépins de bourse, là, ça s'améliore. On pensait bien que s'il y a des défauts en Europe, ça va être sympathique à gérer, hein. On va être sympathique à gérer.
Justement, donc, les États, c'est plongeant pour obtenir des fonds sur les marchés financiers.
Oui.
Et les banques, c'est même plus plongeant, là.
Non. Non. Non, mais ça, j'y réponds après la publicité, parce qu'on va se prendre 10 petites minutes de pause.
Merci.
Et ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller prendre un petit verre au bar qui nous accueille.
Parce qu'il y a des jingles ici.
Exactement.